Comment poursuivre le dialogue avec Guy Debord, 12 ans après sa disparition, et plus précisément avec ce qu'il a légué à l'histoire du cinéma, à savoir un corpus de 7 films désormais rassemblés dans un coffret DVD. Peut-être, d'abord en replaçant cette œuvre cinématographique dans une généalogie des formes, afin de discerner ce qu'elle a rompu et ce qu'elle a continué du cinéma par d'autres moyens. En rencontrant, par exemple, ceux qui ont côtoyé Debord ou écrit sur son cinéma, mais également ceux qui continuent d'interroger dans leur travail actuel cet héritage.
Guy Ernest Debord devait monter sur la scène pour prononcer quelques mots d'introduction. Il aurait simplement dit « Il n'y a pas de film. Le cinéma est mort. Il ne peut plus avoir de film. Passons, si vous voulez, au débat. »
Une figure apparaît et réapparaît tout au long de ce livre. Ses instincts sont fondamentalement cruels. Sa manière est intransigeante. Il propage l'hystérie, mais il est immunisé contre elle. Il est au-delà de la tentation, parce que malgré sa rhétorique utopiste, la satisfaction est le cadet de ses soucis. Il est d'une séduction indicible, semant derrière lui des camarades amers, comme Ansel et ses miettes de pain, seul chemin pour rentrer chez soi à travers un fourré d'excuses qu'il ne fera jamais. C'est un moraliste et un rationaliste, mais il se présente lui-même comme un sociopathe. Il abandonne derrière lui des documents non pas édifiants, mais paradoxaux. Quelle que soit la violence de la marque qu'il laissera sur l'histoire, il est condamné à l'obscurité, qu'il cultive comme un signe de profondeur. Johnny Rotten, Johnny Lydon en est une version, Guy Debord une autre. Pour moi, Debord, c'est plus de la politique que de l'artistique, bien qu'il parle plus d'art que de véritables problèmes politiques.
Il évoque un univers inquiétant.
Bon, le bon vivant, je sais qu'il aimait bien le bon vin, qu'il aimait bien les femmes, donc moi, quelque part, il aimait bien le bon vin. Il ne peut pas être un méchant bourrin.
Très instructif. Très instructif. Politique. Politisé.
Politique.
Politisé.
Les films de Debord sont Hurlement en faveur de Sade ou Injirumimus nocte et consumimur igni.
Injirumimus nocte et consumimur igni.
Et ça, c'est des tentatives de destruction de l'art. Ils veulent avoir un propos, mais qui, justement, ne soit plus réduit à une œuvre d'art esthétique qu'on pourrait regarder pour son plaisir, mais qui soit quelque chose directement en prise avec le réel.
Creating to destroy the masses, destroying to create the masses. Creating to destroy the light, destroying to create the light.
Le soupir de Rembrandt, ce sont les tableaux dans les musées. Alors nous avons beaucoup d'orgueil,
creating to destroy the conditions.
Mais pas celui d'être Rembrandt dans les musées.
On aimerait bien prendre Guy Debord dans ses bras, mais il est plus là.
J'ai pas forcément envie de le serrer dans mes bras, mais effectivement, c'est un des penseurs du siècle dernier. où j'aurais aimé le voir à cette époque, enfin à notre époque, parce qu'il a quand même un côté assez prophétique par rapport à tout ce qu'il a annoncé, à toutes ses théories, et effectivement on a vu depuis, le moment où il a énoncé ses théories, une croissance démesurée de tout ce qu'il annonçait de pire. Et du coup, j'aimerais beaucoup l'entendre, enfin de voir prendre position sur ce qui existe aujourd'hui, justement à cause de ses positions antérieures. La garde d'assaut marche, boum, badaboum, badaboum, bam, bam. La garde d'assaut marche, boum, badaboum, badaboum, bam, bam. Au centre téléphonique, aïe, Carmela, aïe, Carmela. Au centre téléphonique, aïe, Carmela, aïe, Carmela. Défi aux prolétaires, boum, badaboum, badaboum, bam, bam. Défi aux prolétaires, boum, badaboum, badaboum, bam, bam. Provocation.
Et d'abord arrivé vers midi, en voiture avec ces deux femmes, elle était entourée de deux femmes, une qui conduisait, une qui s'occupait plutôt de l'aider à noter. Il avait des problèmes de vue énormes, il était pratiquement aveugle, donc il était bien assisté par ces deux femmes. Et il arrivait à midi, on commençait à travailler, et à 4 heures, on allait prendre un thé sur les bords de la Marne. Il sortait sa petite fiole en argent de sa poche avec un très très bon, une très bonne eau de vie biologique qu'il ramenait de sa campagne. Et après, on rentrait à Paris et il me déposait sur les Champs-Élysées.
Aide-mémoire pour une histoire du cinéma. 1906, voyage dans la Lune. 1920, le cabinet du docteur Caligari. 1924, Entr'acte. 1926, le cuirassé Potemkin. 1928, un chien andalou. 1931, les lumières de la ville. Naissance de Guy Ernest de Bord. 1951, traité de bave et d'éternité. 1952, l'anticoncept. Hurlement en faveur de Sade.
C'est un film qui appartient au mouvement lettriste. Le mouvement lettriste, c'est Isidore Isou, Maurice Lemaître. Isou, c'est une sorte de gourou fanatique. Ça va pas lui plaire que je dise ça, mais c'est vrai que c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui a une inspiration de super artiste. Il veut déconstruire le cinéma. Et déconstruire, c'est pas un mot que j'utilise au hasard. Hein. C'est ça, c'est la déconstruction. C'est penser à Derrida. On est en plein cette époque-là de. Il faut déconstruire les arts, déconstruire le pouvoir aussi qui en sert ces arts. Et pour en faire autre chose. Donc, c'est une sorte de critique pratique du cinéma chez Isou. Alors, il troue la pellicule, il déchire la pellicule, là, il gratte la pellicule. Donc, Debord est intéressé par ça. Il rencontre Isou à Cannes, il vit à Cannes à l'époque. Et Debord lui dit d'accord, moi je vais faire un film aussi de ce genre-là. Et Debord a l'idée de. Je pense qu'il a l'idée d'en finir complètement. En gros, le message qu'il adresse à Isou, parce que c'est un message interne en fait au groupe lettriste, c'est une sorte d'autocritique du groupe lettriste. Il dit on va en finir de critiquer de l'intérieur l'art cinématographique. Si vraiment on va s'amuser à gratouiller les images comme ça et faire de l'expérimental, ça ne m'intéresse pas. Alors allons jusqu'au bout de la démarche et supprimons complètement les images. Donc c'est pour ça, hurlement en faveur de ça, il n'y a pas d'image. Pas d'image du tout, c'est du noir et du blanc. Et un collage de bande-son, par contre, avec des extraits de lecture, de poésie onomatopique, qui était la poésie lettriste. Ça fait une sorte de portrait du brouhaha sonore de l'époque. Je pense qu'il faut voir ça comme ça.
Hurlement en faveur de Sade.
C'est un cinéma qui a lieu non pas sur l'écran, mais dans la salle. Les hurlements en faveur de Sade, assez clairement, c'est les hurlements du public contre le film.
Article 115. Lorsqu'une personne aura cessé de paraître...
C'est une situationniste, c'est-à-dire c'est la construction d'une situation, non pas à l'intérieur d'un film, mais entre le film, le réalisateur du film, et le public qui va voir le film.
Au moment où la projection allait commencer, Guy Ernest Debord devait monter sur la scène pour prononcer quelques mots d'introduction. Il aurait simplement dit « Il n'y a pas de film, le cinéma est mort ».
D'ailleurs, la première projection, ça s'est terminé dans une espèce de d'émeute, de gros débat, de castagne, d'insultes, etc. Ce qui était sans doute le but.
dépasse le monde, les expressions officielles et les festivals de sa pauvreté.
Tu as couché avec François.
Quand elle s'exerce dans un circuit fermé, la liberté se dégrade en rêve, acharnée, devient simple représentation d'elle-même.
Et pacifique, militaire et économique, pédagogique et administrative, contre les forces et les traditions du vieux monde. Ce qui doit être aboli continue.
La deuxième phase qui commence avec les courts-métrages sur le passage et critique de la séparation sont des films on va dire qui s'adressent d'abord au groupe situationniste, une sorte de pensée collective mais du groupe, qui présente aussi le groupe à ceux qui s'y intéressent. Il n'imagine pas du tout une diffusion publique, d'ailleurs il n'a pas de diffusion publique, hein. Ce sont des courts-métrages financé par Asger Jorn, le peintre ici de Cobra, etc., qui est un ami de Bohr, qui détourne l'argent quelque part avec les subventions qui touchent de l'État scandinave, je sais pas. Mais bon, il lui donne un peu d'argent, il fait ces films-là. C'est de l'interne, c'est du film d'entreprise interne.
Le documentaire que vous allez voir s'appelle Critique de la séparation. Il a été écrit et réalisé par Guy Debord. Les images sont d'André Mrugalski. Chantal Delattre a fait le montage.
Raoul Van Eghem, Le Chevalier, la Dame,
ce film, achevé au mois de février 1961, est produit par la Dansk Fransk Experimental Film Company.
Nous incarnions le négatif, observant avec une jubilation sarcastique le vieux monde enterrer ses morts. Nous jetions sur les dépotoirs de la marchandise la désinvolture d'un regard sans complaisance. Sustenté par le loisir de boire et de baiser, autant que nous y conviait le plaisir, notre propension à la critique globale nourrissait aisément notre lucidité affamée.
Vous vous amusez bien, monsieur Logan ?
Je n'arrivais pas à dormir.
Tu crois que l'alcool va t'y aider ?
Il m'aidera à tuer le temps, en tout cas. Et toi, qu'est-ce qui te tient éveillé ?
Des rêves. De mauvais rêves.
J'en fais parfois, moi aussi. Tiens, ça t'aidera à les faire passer.
J'ai déjà essayé, mais la méthode n'a pas réussi.
Une affection s'était nouée sur cette hâte d'en finir avec l'univers finissant d'une impossible vie. Une commune passion d'atteindre à l'extrême affinait nos idées. Nos sentiments s'exaltaient de nous savoir mandatés par l'histoire, celle que nous faisions, pour exécuter contre la civilisation marchande la sentence de mort qu'elle avait promulguée à son encontre. Nous nous accordions une latitude de vivre que beaucoup, obnubilés par une vision apocalyptique qui allait faire le profit et les derniers jours du vieux monde, se refusèrent à pousser plus avant. Qui peut se vanter d'avoir éradiqué au cœur d'un monde naissant le réflexe de mort enraciné en nous depuis si longtemps ?
Mégalomanie.
Breton voyait le cinéma comme un surplus de réalité, un appel au rêve, un appel à l'imagination, un appel à améliorer la vie. Dans un sens, Debord part de ça au départ, mais... il voit très vite que cet appel à l'amélioration de la vie est en fait aussi un détournement en dehors de la vie, c'est-à-dire un divertissement.
Ça, c'est ce que dénonce Guy Debord, c'est la double aliénation du spectacle. C'est soit on est dans le divertissement pur, soit on est dans la fausse représentation du réel. Et l'idée de Guy Debord, c'était de faire un cinéma qui touche au cœur du réel, en quelque sorte.
Il est contre l'usage que la société spectaculaire marchande fait du cinéma. Il faut comprendre si cette théorie debordienne est très importante, la théorie qui vient de Marx, en fait, hein, c'est une théorie marxiste. Il y a l'usage des choses et les choses en elles-mêmes. Ce n'est pas l'essence des choses qu'il cherche. Ce n'est pas l'essence du cinéma qui est critiqué. C'est l'usage que la société en fait. Donc ce qu'il critique, c'est ça avant tout.
Le spectacle cinématographique a ses règles qui permettent d'aboutir à des produits satisfaisants. Cependant, la réalité dont il faut partir, c'est l'insatisfaction. La fonction du cinéma est de présenter une fausse cohérence isolée, dramatique ou documentaire, comme remplacement d'une communication et d'une activité absente. Pour démystifier le cinéma documentaire, il faut dissoudre ce que l'on appelle son sujet. Tout équilibre existant est remis en question chaque fois que des hommes inconnus essaient de vivre autrement. Mais toujours ce fut au loin. On l'apprend par les journaux, par les actualités. On reste à l'extérieur de ceci, comme devant un spectacle de plus.
Entre le 13 et le 16 août 1965, la population noire de Los Angeles s'est soulevée.
Grail Marcus, Lipstick Traces. Grail Marcus, Lipstick Traces.
Ça ressemblait d'abord à un champ de bataille où personne d'autre ne comprenait contre quoi on se bat. Voilà ce qui était transmis au lecteur dans le déclin et la chute de l'économie spectaculaire marchande, le pamphlet virulent de l'IS sur les émeutes de Watts, le ghetto noir de Los Angeles en août 65, un ouragan qui a fait plus de 30 morts et la première révolte de l'histoire. Pour beaucoup, ça n'avait pas de sens que les Noirs de loin les plus pauvres, ceux de Harlem et de Newark, soient restés silencieux pendant que les Noirs relativement aisés de Los Angeles brûlaient et pillaient, beaucoup avec joie et fierté. Pour les situationnistes, qui citaient la fanfaronnade d'une certaine Bobby Holland, une jeune sociologue de Watts ayant juré de ne jamais laver le sang qui attachait ses espadrilles pendant les émeutes, tout cela tombait sous le sens. Le réconfort, écrivirent-ils, ne sera jamais assez confortable pour satisfaire ceux qui cherchent ce qui n'est pas sur le marché.
Guy Debord, le déclin et la chute de l'économie spectaculaire marchande. Comment les hommes font-ils l'histoire à partir des conditions préétablies pour les dissuader d'y intervenir ? Les Noirs de Los Angeles sont mieux payés que partout ailleurs aux États-Unis, mais ils sont là encore plus séparés qu'ailleurs de la richesse maximum qui s'étale précisément en Californie. Hollywood, le pôle du spectacle mondial, est dans leur voisinage immédiat. La richesse individuelle ne fera qu'un riche nègre parce que les Noirs, dans leur ensemble, doivent représenter la pauvreté d'une société de richesse hiérarchisée. Les Noirs de Los Angeles, comme les bandes de jeunes délinquants de tous les pays avancés, mais plus radicalement parce qu'à l'échelle d'une classe globalement sans avenir, d'une partie du prolétariat qui ne peut croire à des chances notables de promotion et d'intégration, prennent au mot la propagande du capitalisme moderne, sa publicité de l'abondance. Ils veulent tout de suite, tous les objets montrés et abstraitement disponibles, parce qu'ils veulent en faire usage. De ce fait, ils en récusent la valeur d'échange, la réalité marchande qui en est le moule. Par le vol et le cadeau, ils retrouvent un usage qui, aussitôt, dément la rationalité oppressive de la marchandise.
Les spectateurs ne trouvent pas ce qu'ils désirent, ils désirent ce qu'ils trouvent.
Les jeunes gens étaient assis en rond sur l'herbe, sous les arbres, au bord du bras Saint-Côme. Une voiture de gendarmes s'est arrêtée le long du mur, ne pouvant être vue du groupe. Ils sortent du car, prennent leur fusil à la main, crossent en avant. Et ils chargent au bas d'ailleurs pas vers les jeunes gens.
La crise cesse d'être révolutionnaire pour devenir la métaphore ultime du capitalisme. Mais en vérité, le capitalisme laisse à l'essentiel de l'ordre ancien, hiérarchie, séparation, aliénation, entièrement en place, et leva plutôt un écran de changement perpétuel, un spectacle dans lequel tout ce qui était neuf devenait vieux dès sa première représentation, et pouvait ainsi être remplacé par quelque chose d'encore plus faussement neuf, ou comme le voyait Guy Debord, qui dans la société du spectacle pointait cette dynamique en termes plus affreux et plus rudes, qui essayait de ramener l'histoire sur terre.
La réalité considérée partiellement se déploie dans sa propre unité générale en tant que pseudo-monde à part, objet de la seule contemplation. La spécialisation des images du monde se retrouve...
Einstein disait « je vais filmer la théorie ». Dans le monde de l'image... Je voulais filmer le capital de Marx. Donc cette idée-là qui revient, est-ce qu'on peut filmer la théorie ? Théorie révolutionnaire, évidemment. Est-ce qu'on peut la filmer ?
Aucune amélioration quantitative de sa misère, aucune illusion d'intégration hiérarchique, ne sont un remède durable à son insatisfaction, car le prolétariat ne peut se reconnaître véridiquement dans un tort particulier qu'il aurait subi, ni donc dans la réparation d'un tort particulier, ni d'un grand nombre de ses torts, mais seulement dans le tort absolu d'être rejeté en marge de la vie.
C'est un projet qui arrive très tôt, cette idée de filmer la théorie, parce qu'elle se remonte à Einstein, et les situationnistes l'évoquent à plusieurs reprises. Mais sans pouvoir concrètement le faire.
Le drapeau rouge de Pékin, 21 septembre 1964. Une nouvelle polémique animée se déroule dans le pays, sur le front de la philosophie, à propos des concepts « un se divise en deux et deux fusionnent en un ». Ce débat est une lutte entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre la dialectique matérialiste. Une lutte entre deux conceptions du monde.
Mettre en film la société du spectacle, le livre, prend à partie les images de cette société. Donc là, il est prend à partie d'une manière plus pratique, on va dire, à travers un film. On voit ces fameuses images dont il parle dans le livre, on les voit défiler devant nos yeux. En même temps, on entend des textes qui viennent du livre, qui viennent intégralement du livre. Il y a aussi l'idée qu'avec la rencontre qu'il a faite avec Gérard Lebovici, il a la possibilité de montrer cette théorie. D'avoir une salle, de faire ce film concrètement, parce que ça coûte cher quand même de faire des films. Donc il a les moyens de le faire. Et donc il dit, bon, si j'ai les moyens, si j'ai la salle, si le public peut y accéder, oui, je le fais. Et donc il n'a pas hésité.
Une fois la projection finie, on prenait la c'est généralement sur les Champs-Élysées, la Boétie, le studio de la Boétie. Et on prenait la copie sous le bras, on fonçait à GTC, on arrivait au labo, on me faisait mettre des fils à fil, c'est-à-dire des petits fils à l'endroit, un fil à coudre à l'endroit, sur la perforation à l'endroit qui voulait commencer à prendre l'extrait. Et à la fin, on met deux fils, ça c'est des codes de laboratoire qui sont ancestraux, deux fils à la fin, et ça j'apportais ça au laboratoire et on copiait, on volait des parties de. Il n'y a jamais eu aucun droit. Donc c'est Lebovici qui a pris tous ces risques-là, c'est le producteur qui prend les risques. C'était une volonté politique, surtout pas acheter, mais voler aussi, quand même, le document.
Les idées s'améliorent, le sens des mots y participe, le plagiat est nécessaire, le progrès l'implique. Le détournement est le langage fluide de l'anti-idéologie.
La fraternité qui unit François Truffaut et Gérard Lebovici connut un violent orage. Le jour où l'imprésario poussa le cinéaste devant l'écran d'une salle qu'il avait louée pour lui seul, afin qu'il puisse voir la société du spectacle qu'il avait fièrement produit. Lebovici voulait savoir ce que pensait son ami du film de Guy Debord. « Avant, Gérard, je n'avais pour toi que du respect. Et maintenant, je ne suis pas loin de penser qu'il se pourrait que je te méprise d'avoir rendu possible une telle infamie. » Cette société du spectacle que tu viens de me montrer n'est même pas une grosse merde, car la merde est le signe que la vie continue. Or, c'est la vie, cette vie de merde, puante et sublime, qui manque à l'exercice d'autosatisfaction de ton protégé. Voilà que tu dépenses en pure perte l'argent de tes acteurs, car tout de même, sans eux, tu n'aurais pas pu jouer les mécènes du néant. Je te maudis. Quel besoin avais-tu de t'associer à cette hideuse manœuvre contre l'intelligence et le sentiment? Quoi? Non, pas un mot, Tedo. Ton Debord est une crapule, une sorte de Staline des impuissants. Lui, ton protégé, il fait songer à un fossoyeur qui blaguerait au pied du cercueil, ce qui ne l'empêche pas d'aller ensuite piller les tombeaux des enfants terribles qui ont mis leur sang sur la pellicule. Si j'étais à la place de Nick Ray ou de Wells, je l'obligerais à me rendre justice. Johnny Guitar, Mr. Arcadine, mais pour qui se prend-il? On pardonne à un assassin, mais pas à un escroc en gants blancs qui abuse des petits vieux, des agonisants. Qu'as-tu fait là, Gérard? Qu'as-tu fait là?
D'emblée, il dit bien que le cinéma situationniste ne peut pas exister. il ne peut pas exister dans cette société. Simplement parce que chaque fois qu'on crée quelque chose dans cette société, ça devient un produit, ça devient du commerce. Pour lui, c'est lié, c'est-à-dire qu'il faut créer un cinéma en même temps qu'on crée une nouvelle société. Puisqu'on ne peut pas créer d'œuvres nouvelles dans cette société, il faut prendre ce que la société crée et les faire parler autrement, en détourner le sens. Et c'est aussi un renoncement quand même à la création pure du cinéma. La catégorie d'artiste était dépassée pour d'emblée, c'est clair que lui, il est pour le dépassement de l'art, de la politique, de ce qu'il appelait les séparations. Les séparations, c'est ces catégories-là que l'on sort quand on en a besoin, que la société sort quand elle en a besoin, de ces petits ghettos de divertissement. De faire de lui un artiste maudit, c'est une erreur, c'est un malentendu, c'est de la désinformation et un détournement de son œuvre.
Les spécialistes du cinéma ont dit qu'il y avait là une mauvaise politique révolutionnaire. Et les politiques de toutes les gauches illusionnistes ont dit que c'était du mauvais cinéma. Mais quand on est à la fois révolutionnaire et cinéaste, on démontre aisément que leur aigreur générale découle de cette évidence que le film en question est la critique exacte de la société qu'ils ne savent pas combattre et un premier exemple du cinéma qu'ils ne savent pas faire.
Je ne suis pas cruel, je suis logique. Depuis longtemps, j'ai déclaré la guerre à la société.
Et vous avez tué beaucoup de monde ces temps-ci, Pierre-François?
Non, mon ange. Vous voyez aucune trace de sang, seulement quelques taches d'encre. Mais rassurez-vous, Garange, je prépare quelque chose d'extraordinaire.
Quand j'étais enfant, j'étais déjà plus lucide, plus intelligent que les autres. Ils ne l'ont pas pardonné. Belle jeunesse, vraiment.
Mais quelle prodigieuse destinée.
Tout cela est à jamais fini.
Transport, food, communication, housing, luxury, energy. No accidents, nothing unnatural. No poverty, no sickness, no needs, and many luxuries.
Statistics, eh?
A few of us making decisions on a global basis, for the common good. Corporate society takes care of everything. All it asks of anyone is not to interfere with management decisions.
Who wants that?
The majors, their executives.
We know about that stuff.
It's a definite social purpose.
Survive, isn't it?
Stupid game after all. Awful game.
Was he, does he dream?
You ought to be glad to be out of it.
How can I do that?
Specifically, you're bargaining for the right to stay in a horrible social spectacle.
Fin 2004, Augustin Gimel réalise Genève, construit à partir du film Rollerball de Norman Jewison. Plus qu'un travail sur le détournement, Augustin Gimel réagence les thématiques développées dans ce film. Il en isole des fragments et les remonte. Pendant son élaboration, il passe en boucle « Injury Room » de Guy Debord. Avec Genève, Augustin Gimel évoque l'oppression de l'individu par la société. Les images recomposées déclinent le motif du cercle, matérialisé par la course folle de la boule de rollerball. Sur ce mouvement, se greffe un dialogue entre un représentant du pouvoir et un personnage qui joue le rôle du philosophe, tel un Socrate posant des questions élémentaires. Mais les réponses qu'il reçoit restent indépendantes de ces questions. Comme la boule, le langage du pouvoir tourne à vide et ne peut déboucher que sur la violence.
You won't find any answers in Geneva.
Pas un ensemble.
spectacle, compris dans sa totalité, est à la fois le résultat et le projet du mode de production existant.
Il m'a peu capté des images sur le vif. En même temps, cette captation sur le vif des événements révolutionnaires, ou des crèves, etc., produit un effet de non-implication. Ce que Debord appelle le côté spectateur. On devient spectateur de la vie. Et cette séparation-là, il la critique de manière importante. Et là, ça rentre dans la psychologie, en fait. Cette idée que chaque fois que l'on voit quelque chose représenté, une émeute, un scandale, une activité réelle, on peut se passer de la faire. On peut se passer de la réaliser. Parce qu'on l'a vu réalisé par d'autres à l'image. Et ça, en fait, ça désactive ça. Ça crée simplement un culte fétichiste de cette affaire-là. C'est pour ça qu'il était assez contre le film militant. Le film militant, pour lui, finalement, c'était des tombeaux. C'était des stèles au mouvement militant. Il y a une différence très claire entre Godard, Marker et Debord. Godard et Marker sont quand même des gens de cinéma. C'est des professionnels. Je vous demandais à Marker, il vous dira, je suis un professionnel du cinéma. En plus, des gens qui étaient dans l'idéologie maoïste. Qui a cette idée de donner la caméra au peuple, de faire parler la réalité. Mais il reste dans l'image, il reste dans cette idée de projection. Et cette idée d'ailleurs totalement utopique, d'aller dans les usines, montrer les films pour que les gens prennent conscience. Et pour Debord, c'est évident que on ne prend pas conscience en regardant des images. On prend conscience dans sa réalité, quand on est devant son patron, quand on est dans la contrainte réelle. Et les images, non, les images nous trompent. Nous donne l'impression qu'on prend conscience. Et c'est une fausse conscience, parce que Debord, la fausse conscience. Une fausse conscience purement intellectuelle. Donc on reste toujours dans le monde du spectacle. On va rester toujours dans la représentation. C'est ce que Debord ne veut pas.
Jean-Luc Godard, vos réflexions sur cet événement.
Mais vous avez besoin de moi pour dialoguer. C'est difficile avec vous à la télé. Vous parlez beaucoup, vous montrez quelques images assez pauvres qui ne peuvent pas en dire grand-chose. J'ai regardé par exemple hier une émission, enfin au journal, il y avait un petit documentaire que vous avez fait où vous interviewiez des Anglais et je pense même pas qu'on peut le revoir ici, ça doit être avec tout votre matériel, vous ne pouvez même pas pouvoir revoir une image que vous avez montrée hier.
Bien sûr que si, on peut. Forcément celle-là, vous l'avez demandé un peu tard, là, en direct.
Ah oui, un peu tard. Ben oui, non, mais on ne peut pas travailler. Moi, je travaille avec des images. Et ce qui m'intéresse, si j'étais à la télévision, ça serait de me servir des images pour voir quelque chose. Ouais. Parce que sinon, on dit comme Billoud ou Paul VII, je ne sais pas, il ne faut pas tuer avec des mots. Mais c'est un mot en plus, et on ne se sert pas des trucs. Et là,
mais nous ne savons pas non plus ce qui se passe, mais c'est peut-être déjà une information.
Alors pourquoi vous ne dites pas, Philippe? Vous commencez par votre journal en disant « je ne sais pas ».
J'ai commencé mon journal en disant « information contradictoire et confuse ». Alors j'en viens de dire une chose, Londres autre chose.
Information contradictoire, vous avez l'air de savoir ce que c'est information contradictoire. Dites, moi, chef d'antenne 2, je ne sais pas ce qui se passe.
D'accord, je ne suis pas chef d'antenne 2.
Non.
Première information. Deuxièmement.
Moi, speaker, je ne sais pas ce qui se passe.
Je ne suis pas speaker. Ça n'est pas une bonne définition, speaker, Jean-Luc Godard.
Vous ne voyez pas ce qui s'est passé. Vous pouvez dire ça?
Je n'ai pas vu ce qui s'est passé au Malouine. Ça vous convient? Ça vous satisfait? Très bien. Merci, Jean-Luc. Mais restez avec nous, parce que le dialogue est intéressant.
C'est la plus vieille spécialisation sociale, la spécialisation du pouvoir, qui est à la racine du spectacle.
Je trouve qu'une des caractéristiques de son cinéma, c'est justement ce flux qui peut être monotone, sur des images qui changent, mais finalement les problématiques qui se posent, les questionnements qui restent, sont au-delà des images. Se déploie dans un temps beaucoup plus long que la manière dont les images se succèdent.
Se manifeste par le renversement des relations établies entre les concepts et par le détournement de toutes les acquisitions de la...
Chez Debord, vraiment, le sens sature. Chez Debord, vraiment, le sens sature le film. C'est toujours la production massive de sens à partir d'images, à partir de textes, à partir de relations texte-image. C'est une sorte d'intensification du film. D'ailleurs, c'est des films qui sont faits pour être vus plusieurs fois. C'est pas genre on le consomme une fois, après on va le rêver chez soi, en racontant à ses copains. C'est vraiment des films
qui participe d'une sorte d'intensification du sens et de l'intelligence, qui ne sont pas contemplatifs. Et ça aussi, l'art contemplatif vient de cet art séparé de la société. Donc lui, il essaie d'éviter le contemplatif, et il y a une sorte d'activité assez cérébrale, assez forte, et émotive aussi, dans le visionnage de ses films. Donc c'est un cinéaste à part entière, enfin, avec sa propre façon de voir, de manier les images et les sons.
Ingiramimus nocte et consumimur igni.
J'ai vraiment des souvenirs de Venise, d'une nostalgie de Venise, mais magnifique, ce noir et blanc avec ses travelling sur les canaux, quelque chose de très, très poétique.
L'idée de Venise, on a vu ça comme une sorte de stylisation. Non, il faut arrêter avec ça. Venise, c'est l'endroit où s'est déroulée la première réunion de l'International Situationniste. Elle a été fondée à Venise. Le premier congrès s'est tenu à Venise, elle a été fondée en Italie, mais c'est à Venise même que le premier congrès s'est tenu. Donc c'est une nostalgie par rapport à leur groupe. C'est une nostalgie aussi par rapport à peut-être une certaine qualité de vie. Debord, c'est pas caché quand même de voir la Renaissance italienne en particulier comme une sorte de modèle de développement. Pensez à Machiavel, le prince de Machiavel a une influence importante dans la façon de décrire et de penser la société chez Debord. Donc Venise, cette ville-là, c'est la ville aussi qui se désagrège au fil du temps. C'est une ville aussi autonome, c'est-à-dire une ville qui, quel que soit le pouvoir qui la gère, elle a sa propre vie, elle se désagrège au fil du temps et à la limite elle survit à toutes les, à tous les pouvoirs. Donc il y a un peu cette idée-là. Mais il n'y a pas d'esthétisme, ce serait vraiment... il n'y a pas de recherche de faire de l'image fétichiste ni contemplative, je suis dedans. Le fleuve, l'eau qui coule, il pense à Héraclite. Il pense à Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Il prône même le dépassement des textes qu'il a écrits dans l'IS, en disant bon, il faut toujours réactualiser les choses. Il y a une nouvelle société qui se met en place, l'IS a échoué en 68, donc il faut à nouveau revoir les choses. L'eau s'écoule, elle n'est pas la même, il faut la repenser. Donc il appelle plutôt à un renouveau. Cette nostalgie n'est pas un regret. Simplement, j'ai fait ce qu'il fallait faire, l'IS a fait ce qu'il fallait faire en son temps. Il faut que l'avant-garde soit de son temps. Donc que la nouvelle avant-garde soit à nouveau de son temps. C'est exactement une illustration, un peu tactile, visuelle de ses écrits.
Tenez-vous prêt pour une campagne d'hiver. Et plus longue encore si c'est nécessaire. Ça fait longtemps que j'espère recevoir cet ordre. Bien sûr, je n'ai rien entendu.
Bien sûr, Kirby.
Ce qui m'a marqué dans ce film, c'est que c'est le nombre de métaphores guerrières. On est en permanence en train de regarder des soldats qui vont à l'assaut, Robin des Bois qui va à l'assaut, des chevaliers qui vont à l'assaut, la cavalerie qui arrive, ou des cow-boys qui tuent des Indiens, ou des Indiens qui tuent des cow-boys.
Si vous échouez, vous affirmez que le conseil de guerre qui vous jugera sera composé de nos anciens compagnons du Shenandoah.
La danse de la défaite chez Debord, elle est très nette dès le départ. Il annonce plusieurs fois, il crée un mouvement qui n'a peut-être pas d'issue, qui n'arrivera pas au bout, mais il faut la mener, il faut essayer d'y aller quand même. Les charges, rappelez-vous ces films-là avec les charges suicidaires, c'est un peu ça, c'est une charge suicidaire le mouvement de Debord. Il sait qu'il ne vaincra pas.
La grandeur de l'art ne commence à paraître qu'à la retombée de la vie.
En 78, quand il fait le film, je pense qu'il n'est plus très optimiste pour ce qui va se passer. L'international est dissoute, la révolution en France n'a pas peu d'avenir, les récupérateurs sont partout, tout le monde se prévaut d'être héritier des idées de 68, mais bon, rien ne change. Non, il n'est pas optimiste, plutôt ça. Il y a une nostalgie, une certaine nostalgie de ce qui aurait pu être et de ce qui n'a pas été.
dans Injiru Mimus, il fait un prêche. C'est le prédicateur Guy Debord, ou le prêtre Guy Debord, pour le dire tout simplement. C'est le prêtre Guy Debord qui nous dit sa messe pendant une heure et demie. Et bon, c'est un côté un peu pénible pour quelqu'un qui a bouffé du curé, du patron et du capitaliste toute sa vie. Il parle comme eux, et même pire qu'eux. On peut imaginer que ce soit éventuellement volontaire dans une époque où tout le monde veut avoir l'air relax, rigolo, sympathique. D'être, il le dit en début de film, il dit voilà, je vais être antipathique et je vais être violent avec le public, c'est ça le but, quoi. Soit on va dire que c'est juste désagréable et que c'était le but, soit on va dire que c'est inefficace.
C'est pas un visionnaire, justement, il était contre les visionnaires, il était un homme de 100 ans, il disait qu'il fallait faire son, il fallait faire son temps. Expression très intéressante. Faire son temps, c'est-à-dire à un moment donné. Laisser la place et aussi transformer son temps au quotidien, dans sa réalité. C'est-à-dire ne pas projeter des visions dans l'avenir. C'était le modèle des révolutionnaires de l'époque. Projeter des révolutions, des grands soirs qui allaient venir un de ces jours. Donc c'est ça, le Numinor, c'est la révolution ici et maintenant.
Il ne serait pas possible d'être ensemble plus tard et ailleurs qu'ici. Il n'y aurait jamais de liberté plus grande.
Notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit. Nous cherchons notre passage.
J'ai passé mon temps dans quelques pays de l'Europe. Et c'est tout le lieu du ciel.
Pour moi, d'abord, c'est plus de la politique que de l'artistique, bien qu'il parle plus d'art que de véritables problèmes politiques.
Ça ressemblait d'abord à un champ de bataille, personne d'autre.
Un important commando de l'Est, constitué d'une trentaine de membres, tous revêtus de cet uniforme.
Ils sont
vraiment original, embarqués sur la croisette, avec un délire bien arrêté.
Politique, politisé. Il aimerait bien prendre Guy Debord dans ses bras, mais il est plus là. C'est pas mal.
La première fois que j'avais été à la fête du travail, j'ai vu une banderole. C'était dans la République. Enfin, fallait traverser tout le boulevard, un étage à l'autre. C'était marqué. La fête du travail, fête de l'animation. J'ai cherché à en savoir plus. J'ai pas vraiment l'impression que ce soit par rapport aux situations de vie, mais soit vraiment dans une action artistique qui sont
Il satanise le spectacle qui serait censé tout falsifier, qui serait censé régner tout seul. Il nous explique. Attends, je suis en train de.
Mais non, j'ai mais lu le livre. Raconte un autre livre.
Mais c'est le livre que j'ai lu. Je veux dire, je peux prendre des extraits. Il nous explique que le secret se généralise. Il nous dit que la démocratie est en train de se détruire. Hein?
Oui. Bon. Oui.
Eh bien, il dit ça. J'ai lu ce livre, alors que j'ai l'impression que la révolution démocratique est en marche partout. Hein? Il suffit de voir ce qui se passe. D'ouvrir
voilà,
ces journaux,
de lire
ces journaux.
De notre époque. Alors,
c'est-à-dire la Yougoslavie, l'Algérie, le Chili, etc. C'est-à-dire que M. Debord a écrit un livre très intéressant, mais il n'a pas lu les manuels historiques, et puis absolument. Il ne lit pas les journaux.
Alors, il n'aime pas les journaux.
Pourquoi ce livre,
talentueux, quoique légèrement jargonneur, je ne l'aime pas.
C'est qu'en fait, d'une certaine manière, il ne dit pas, mais il légitime la violence. Il légitime la violence parce qu'il est en train de nous expliquer que le monde de conspiration dans lequel on s'installe est épouvantable, qu'il n'y a pas de démocratie, et donc...
Quand le prolétariat découvre que sa propre force extériorisée conduit au renforcement permanent de la société capitaliste, non plus seulement sous la forme de son travail, mais aussi sous la forme des syndicats, des partis ou de la puissance étatique, qu'il avait constitué pour ses
chacun mentir. Buvait quotidiennement plus de verre qu'un syndicat ne dit de mensonges pendant toute la durée d'une grève sauvage. Des bandes de policiers dont les marches soudaines étaient éclairées par un grand nombre d'indicateurs ne cessaient de lancer des incursions sous tous les prétextes, mais le plus souvent dans l'intention de saisir des drogues et les filles qui n'avaient pas 18 ans.
Ce qui est extraordinaire, c'est de se préoccuper.
Je ne suis pas cruel, je suis logique.
depuis longtemps, j'ai déclaré la guerre à la société.
Et vous avez tué beaucoup de monde ces temps-ci, Pierre-François?
Non, mon ange. Voyez, aucune trace de sang. Seulement quelques taches d'encre. Mais rassurez-vous, Garant, je prépare quelque chose d'extraordinaire.
Quand j'étais enfant, j'étais déjà plus lucide, plus intelligent que les autres. Ils nous l'ont pas pardonné. Belle jeunesse, vraiment.
Mais quelle prodigieuse destinée.
Tout cela est à jamais fini. Tout s'écoule à la fois, les événements et les hommes, comme ces flots incessants du Yangtze-Kiang qui vont se perdre dans la mer.
L'histoire qui menace ce monde crépusculaire est aussi la force qui peut soumettre l'espace au temps vécu.
Mais rien ne traduisait ce présent sans issue et sans repos comme l'ancienne phrase qui revient intégralement sur elle-même, étant construite lettre par lettre comme un labyrinthe dont on ne peut sortir.
Les arts futurs seront des bouleversements de situation ou rien.
Mais les théories ne sont faites que pour mourir dans la guerre du temps. Ce sont des unités plus ou moins fortes qu'il faut engager au juste moment dans le combat et, quels que soient leurs mérites ou leurs insuffisances, on ne peut assurément employer que celles qui sont là en temps utile.
Dans un de ses films, Debord dit il n'y a rien de pire que le bataillon d'élite qui ensuite, intégré par le pouvoir en place, va renier sa propre révolution. Au contraire, il vaut mieux avoir un bataillon d'élite qui meurt au front et qui ouvre une voie. Alors, on peut envisager que les situationnistes soient morts au front, d'une certaine manière, y compris dans toute leur médiocrité, dans tout leur effondrement final, mais qu'ils aient peut-être ouvert un front de gens qui vont travailler peut-être radicalement au front.
Parce que c'était plutôt un projet politique qui s'est voulu esthétique. Je pense que c'est d'abord une pensée, d'abord une révolte, d'abord une remise en question. Et plus que esthétique au départ, qui est devenu une forme esthétique pour exprimer l'idée politique.
La question, c'est est-ce qu'ils ont réussi ? Ben non, c'est un échec lamentable.
Le système industriel n'est pas créatif.
Est si forte qu'elle récupère tout.
Le système marchand n'est pas créatif. La machine est si forte qu'elle récupère tout. Parce qu'elle a besoin de nouveautés. Le système industriel n'est pas créatif. Le système marchand n'est pas créatif. Elle a besoin dans ses franges, dans ses marges. Parce qu'elle a besoin de nouveautés. Elle a besoin de nouveautés. Le système industriel n'est pas créatif. Ensuite, le système marchand n'est pas détruit. Elle a besoin d'envers ses franges, dans ses marges. Du genre qui sont marges. Du genre qui sont dieux. Ensuite, dieux soit créatif. Ensuite, on détruit. Et on récupère ce qu'ils ont fait pour en faire le marché.
Ils ont entrevu quelque chose qui est sans doute essentiel en termes de critique et en termes de moyens. En même temps, je crois qu'ils ont mal fait jouer les deux. Et puis, il faut dire qu'en face, il y a des gens qui jouent très bien, avec un cynisme absolu et une puissance de feu absolument phénoménale. Pour une poignée de situationnistes, on a des millions de gens qui œuvrent à l'extension du désert de la société marchande. C'est étourdissant de volume et de puissance.
Vous allez tout de suite vous remettre au travail.
Bonjour mes amis. Cet enregistrement a été réalisé par la compagnie des discours pour vendeurs. C'est le représentant mécanique qui vous parle. J'ai le très grand plaisir de vous présenter Monsieur G. Wilcom Billows, l'inventeur de la machine à nourrir Billows, qui vous permet de faire déjeuner automatiquement votre personnel sans interrompre son travail. Pas de perte de temps, maximum de rendement. La machine à nourrir Billows.
Le situationnisme est aujourd'hui intégré et repris dans effectivement son côté le plus anecdotique, c'est-à-dire une forme un peu décalée, le détournement. La pub fait des dizaines de détournements, à la limite, elle fait même plus que ça. Elle n'est plus que sa propre caricature. Voilà. Sauf qu'effectivement, c'est vidé de tout contenu politique.
Admirez notre appareil à manger le maïs avec sa transmission synchronisée qui vous permet de passer de la grande à la petite vitesse par un simple mouvement de la langue.
Et la fierté de Raoul Van Eghem, c'est de dire que ça a été totalement non récupéré. Mais en même temps, on a récupéré le côté le plus anecdotique et le plus folklorique, ce qui satisfait totalement la société marchande. C'est justement comme ça que la société marchande récupère les choses. C'est en les réduisant à quelque chose d'anecdotique et en le promenant sur les devantures des magasins.
Il y a une certaine postérité des idées de Debord. Le détournement les détournements repris par la publicité, je pense que c'était très 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 tôt. Pensez au surréaliste, au dadaïste, toutes ces formes-là ont été récupérées.
J'ai beaucoup travaillé pendant 30 ans au montage et cycliquement, je me disais, je me répétais, le travail est la meilleure façon de rien faire de sa vie. C'était une phrase de Guy Debord qui j'ai pas aidé à travailler, mais peut-être aidé à arrêter un jour, comme je l'ai fait il y a 2 ans.
Ce sont des salariés pauvres qui se croient des propriétaires, des ignorants mystifiés qui se croient instruits et des morts qui croient voter. Comme le mode de production les a durement traités, de progrès en promotion, ils ont perdu le peu qu'ils avaient et gagné ce dont personne ne voulait. Ils collectionnent les misères et les humiliations de tous les systèmes d'exploitation du passé. Ils n'en ignorent que la révolte.
Et nous avons, à la fin de ces délibérations, apprécié ce qui est fait positif et mis en évidence aussi qu'il restait encore beaucoup à faire.
Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images. Le spectacle, compris dans sa totalité, est à la fois le résultat et le projet du mode de production existant. Il n'est pas un supplément au monde réel, sa décoration surajoutée. Il est le cœur de l'irréalisme de la société réelle. Sous toutes ses formes particulières, information ou propagande, publicité ou consommation directe de divertissement, le spectacle constitue le modèle présent de la vie socialement dominante. Il est l'affirmation omniprésente du choix déjà fait dans la production et sa consommation coronaire.
La direction régionale des services pénitentiaires.
De même, aucune époque vivante n'est partie d'une théorie. C'était d'abord un jeu, un conflit, un voyage. On peut dire de la Révolution aussi ce que Jomini a dit de la guerre. Qu'elle n'est point une science positive et dogmatique, mais un art soumis à quelques principes généraux et plus que cela encore, un drame passionné. Quelles sont nos passions et où nous ont-elles menées? Les hommes, le plus souvent, sont si portés à obéir à d'impérieuses routines que, lors même qu'ils se proposent de révolutionner la vie...
Il répète sans cesse que le cinéma est un moyen supérieur d'expression dans cette société. Là, il rejoint des gens comme Eisenstein, comme l'avant-garde soviétique, qui voient le cinéma comme vraiment le moyen moderne, populaire, qui dépasse tous les autres arts, qui étaient vraiment ghettoisés dans leur certain élitisme, finalement. Donc le cinéma, pour lui, c'était vraiment le cœur de la société moderne et son expression principale. Du coup, il en déduisait que, comme c'était un art vraiment très important, il était sous contrôle. Donc c'est vrai que le cinéma est un art supérieur qui regroupe toutes les autres œuvres d'art anciennes et les met à portée de la population. Donc un art démocratique, on va dire. Ça explique pourquoi il n'a jamais renoncé à faire du cinéma. C'est pas visionnaire, justement, il était contre les visionnaires. Il était un homme de son temps. Il fallait faire son temps. Je vois ça très intéressant.
Faire son temps,
c'est-à-dire à un moment donné, laisser la place et aussi transformer son temps au quotidien, dans sa réalité.
Mais avant de mourir, pourrais-je savoir qui vous êtes?
La haine universelle de la société de mon temps, et j'aurais été fâché d'avoir d'autres mérites aux yeux d'une telle société.
Faire une révolution pour les
mais j'ai observé que c'est encore dans le cinéma que j'ai soulevé l'indignation la plus parfaite et la plus unanime. On a même poussé le dégoût jusqu'à m'y piller beaucoup moins souvent qu'ailleurs, jusqu'ici en tout cas. Mon existence même y reste une hypothèse généralement réfutée. Je me vois donc placé au-dessus de toutes les lois du genre. Aussi, comme le disait Swift, ce n'est pas une mince satisfaction pour moi que de présenter un ouvrage absolument au-dessus de toute critique. Pour justifier aussi peu que ce soit l'ignominie complète de ce que cette époque aura écrit ou filmé, il faudrait un jour pouvoir prétendre qu'il n'y a eu littéralement rien d'autre, et par là même que rien d'autre, on ne sait trop pourquoi, n'était possible. Eh bien, cette excuse embarrassée à moi seul, j'arrivais à l'anéantir par les enquêtes, et comme je n'aurais eu besoin de consacrer le temps à du temps et du peine,
À ce jour, rien de la part la plus radicale de l'IS n'a été récupéré. Le situationnisme vend des livres, des chemises et des réputations. Un même silence continue d'entourer le projet esquissé il y a près de 50 ans d'une internationale du genre humain. Vous avez entendu par ordre d'apparition Victor Head, éditeur et vidéaste, Anne Delrieux, monteuse, Bernard Herviot, anarchiste en liberté, Yann Kerninon, philosophe et magicien, auteur du récent Manuel de survie, moyen d'accès au monde, un livre paru aux éditions du Bordelot, Antoine Coppola, historien du cinéma et qui a écrit une introduction au cinéma de Guy Debord et de l'avant-garde situationniste, livre paru chez Sulliver. Guy Debord, avec des extraits de ses différents films, aujourd'hui visibles dans un coffret sorti chez Gaumont. Stéphanie Granel, monteuse de In Girum Imus Nocte et Consumimur Inni. Augustin Gimel, cinéaste. Et Alain Houdin, galeriste de À l'enseigne des Houdins. Vous avez également entendu le travail sonore de Frédéric D. Oberland, musicien et cinéaste, à qui nous avions demandé de réaliser un travail à partir de chutes que nous lui avions fournies. Sans oublier des extraits de Lipstick Traces de Grell Marcuse, Le Chevalier, la Dame, le Diable et la Mort de Raoul Van Eghem, Le Déclin de l'économie spectaculaire marchande de Guy Debord et Les Jours Obscurs de Gérard Lebovici, signé Jean-Luc Douin. Debord l'iconoclaste, Guy l'iconodoule, un documentaire réalisé par Emmanuel Chicon et Sébastien Lecordier.